chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
La chercheuse américaine Kathy Bowman est devenue une vedette mondiale après la publication le 10 avril 2019 de la première image d'un trou noir rendue possible grâce à son travail. Elle a mis au point en 2016 l'algorithme SHIRP qui a permis de créer une image à partir des données récoltées par 8 télescopes dans le monde. Le volume de données était tel qu'il a fallu réunir physiquement l'ensemble des disques durs, soit plusieurs centaines de kilos de matériel, à l'observatoire Haystack de Westford dans le Massachusetts. Pour s'assurer que l'image ne s'appuyait pas sur une reconstitution erronée, le Centre d'astrophysique de Harvard Smithsonian a formé 4 équipes différentes. Quand j'ai vu que toutes les équipes avaient des images très similaires, ça a été le moment le plus heureux que j'ai jamais connu, a déclaré la chercheuse au Wall Street Journal, non sans faire preuve de modestie, en disant que ce n'était pas un algorithme ou une personne qui avait créé cette image, mais, je cite, le talent incroyable d'une équipe de scientifiques du monde entier. Une femme ayant manifesté contre l'obligation de porter le voile en Iran a été condamnée à 1 an de prison. Vida Movaidi avait été arrêtée fin 2018 pour être apparue au sommet du dôme de la place Engelab en agitant son voile et des ballons rouges. Poursuivie pour incitation à la corruption et à la débauche, elle a été condamnée le 2 mars à 1 an de prison. Ayant déjà protesté seule dans la rue en 2017, cette mère d'une fille de 2 ans est devenue l'égérie d'un mouvement de contestation du port du voile, rapidement réprimé par les autorités. Des dizaines de femmes ont été arrêtées après elle. Madame Movaidi pourrait bénéficier d'une mesure d'amnistie. L'avocate Nasrin Sotoudeh, qui avait défendu des femmes arrêtées pour avoir enlevé leur foulard en public, purge depuis juin 2018 une peine de prison de 5 ans pour des accusations d'espionnage. Selon son mari, elle a été condamnée en mars à 10 ans de prison supplémentaire pour incitation à la débauche. Les femmes en Afrique contribuent très largement au commerce régional en traversant les frontières pour aller vendre leurs produits, fournir leurs services et apporter leurs compétences afin de répondre aux besoins économiques locaux. Elles représentent 70% des échanges informels transfrontaliers et génèrent ainsi près de 18 milliards de dollars par an en moyenne dans 15 États membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. Mais des obstacles tels que les barrières non tarifaires qui limitent les importations les empêchent de contribuer pleinement à la vie économique tant au niveau régional que mondial, indique un commentaire de la Banque mondiale intitulé « Les femmes en Afrique, un formidable atout dans la lutte contre la pauvreté ».
Parole de femme.
Les initiatives se multiplient au Togo pour protéger l'environnement, comme le Mareva, le marché du recyclage et de la valorisation, qui était à sa première édition le week-end du 6 avril à Lomé. Il s'agit d'un marché particulier de friperies où l'on pouvait trouver notamment des habits, des chaussures, des sacs, entre 200 et 5000 francs, selon notre correspondante Kay Lawson, qui a tendu son micro à des vendeuses et à des acheteurs sur place.
Le marché du recyclage et de la valorisation maraîchère est une forme de vide de grenier qui ne conservait que le vestimentaire pour cette première édition. Le concept vise non seulement à donner une nouvelle vie à ses effets vestimentaires, mais aussi limiter le gaspillage pour une meilleure protection de l'environnement. Judith Larré est la promotrice du Maréva.
La préoccupation première de Maréva, en fait, c'est la préservation de notre environnement d'abord. C'est aussi de promouvoir la consommation rationnelle et surtout d'éviter le gaspillage.
Ici, le coût maximum des articles, c'est 5 000 francs. Ils sont en train d'accéder à de la qualité, mais à moindre prix. C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Pour cette jeune dame, Maréva va jouer valablement son rôle de recyclage.
Une très très bonne initiative. Ça permet vraiment de recycler. Il y a des trucs dont les gens n'en ont pas besoin. Or, pour certains, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, c'est une très bonne chose.
Des habits, chaussures et sacs sont bradés à des prix préférentiels. Pour trouver la perle rare, il faut s'abaisser et fouiller. Au bout de l'effort, Olivier Yao, un visiteur, sourit aux lèvres, d'y avoir fait de bonnes affaires.
Et j'ai pu trouver quelques habits et des pantalons.
Alors, à combien ?
L'habit, j'ai trouvé à 2000 et les pantalons à 500. J'ai vu de bonnes choses et j'ai aimé beaucoup l'initiative.
C'est aussi le cas de Chimène Clévor, rencontrée sur le marché du recyclage et de la valorisation.
On a pu trouver des rots à 500, à 200 et les chaussures, j'ai pu en trouver à 2000, même à 1000 francs. On ne peut pas vraiment gagner ces genres d'articles à ce prix-là au marché ou bien dans d'autres boutiques, non. C'est vraiment abordable, très abordable.
Un pari gagné pour ces deux jours du Maréva. La prochaine édition, prévue en juillet 2019, devrait offrir plus d'articles, notamment de l'électroménager, du mobilier et des jouets pour enfants. Kay Lawson pour VOA Afrique, Lomé.
Selon le Partenariat mondial pour l'éducation, il est à noter que l'inclusion des femmes dans les décisions clés en matière d'éducation a considérablement progressé. L'avènement du protocole de Maputo et d'autres cadres clés de l'Union africaine soulignent la nécessité de combler le fossé entre les genres et l'importance d'inclure les femmes dans les processus de prise de décision. Ces documents ont donné le ton et mis en place un environnement propice pour que les femmes puissent se faire entendre sur les questions de développement notamment. Certains gouvernements ont élaboré des politiques qui reconnaissent les rôles des femmes et qui ont donné lieu à des actions positives au niveau du système éducatif, analyse l'organisation qui soutient 65 pays dans le domaine de l'éducation.
Si je ne pouvais.
Parmi les survivants du génocide au Rwanda, il y avait des enfants qui se sont sacrifiés pour aider les autres. Ils sont devenus orphelins comme leurs frères et sœurs, mais ont dû apprendre, parfois à l'âge de 10 ans, à jouer le rôle des parents absents. Lors du 25e anniversaire de la commémoration du génocide, Idriss Fall s'est rendu dans un village d'accueil de ses enfants, chef de ménage.
Le génocide rwandais a laissé bon nombre d'enfants orphelins de père et de mère. Ainsi, beaucoup d'enfants sont devenus chefs de ménage et sont maintenant aidés dans leurs tâches par l'association Maïcha Africa.
Je m'appelle Rugera Jean-Claude et je suis le coordinateur de l'association Maïcha Africa qui a été créée par la ministre France Sonia Roland. Cette association, après le génocide, nous avons un groupe des enfants qu'on a aidés à refaire leur maison qui sont les enfants chefs de ménage. Et ici à Kinyinya, nous avons 40 enfants. De l'autre côté, à peu près une trentaine à Kimirongo.
Emmanuel Nyonzima à l'âge de 14 ans, devait déjà prendre en charge l'éducation de 5 frères et sœurs, tous orphelins.
J'ai perdu mes parents et j'étais l'aîné, donc j'ai pris la responsabilité d'être le chef de ménage, puisqu'il me restait 5 enfants, donc 5 de ma famille.
C'était prévisible, j'étais l'aîné. Alors, c'est moi qui devais apporter de l'éducation à ces enfants pour leur dire de rentrer tôt, pour leur dire d'aller à l'école, de faire les devoirs, pour la discipline. Tout ce que mon père pouvait faire ou ma mère pouvait faire revenait à moi. Et aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont leur famille. Seul le dernier, il a un enfant mais il n'est pas encore marié.
Comment est-ce que vous avez fait pour les nourrir, les loger, les habiller?
Au départ, bien sûr, c'était un don du gouvernement. Pour les maisons, c'est le gouvernement qui construit ces maisons, juste après le génocide, avant bien sûr que cette association ne vienne en aide.
Je m'appelle Marte Gatavaye.
Et j'étais le grand, parce que les petits, l'un avait 6 ans, l'autre avait 7 ans. Donc j'étais le grand, puisque j'avais 10 ans.
Comment est-ce que vous avez pu asseoir votre autorité à 10 ans sur des enfants qui ont 6 ans?
Il y avait un parent qui nous assistait et qui m'entraînait à devenir chef de ménage et qui me disait comment faire, comment traiter mes petits frères, et il m'a aidé beaucoup pour asseoir mon autorité. Mon projet, c'est de fonder mon foyer. Je veux me marier très bientôt.
Comment est-ce que vous avez perdu vos parents pendant le génocide?
Nous étions ensemble, nous étions rassemblés dans une église. Ils nous ont trouvés là-bas et ils ont tué tout le monde. Ça, je me rappelle très bien.
Comment est-ce qu'il a survécu alors?
C'est la grâce de Dieu. Certains ont pu fuir. On les a tirés dessus. Beaucoup de balles. Certains sont tombés. D'autres ont été sauvés, dont moi.
Depuis Kigali, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Lors de son séjour au Rwanda à l'occasion du 25e anniversaire de la commémoration du génocide, Idriss Fall a également recueilli la réaction de jeunes Rwandais qui sont nés après 1994 et qui représentent l'écrasante majorité de la population, afin de savoir quelle est leur relation avec le passé tragique de leur pays. Voici la réaction de Sabrina, 21 ans.
Je m'appelle Nishimwe Sabrina, je suis née en 1998, donc 4 ans après le génocide. J'ai 21 ans maintenant.
Comment est-ce que vous avez appris qu'il y a eu un génocide ici?
Bon, on a appris ça par différents médias, par nos parents, par les histoires que nos grands-parents ont racontées. Oui, c'est comme ça qu'on a appris ça, les histoires qui s'est fait au Rwanda en 1994.
Est-ce que pour vous c'est une relation de tristesse, c'est un passé lointain? Quel rapport avez-vous avec le génocide?
Pas, il n'y a pas de grand-chose, il n'y a pas un grand rapport. On n'était pas là, on est né après ça. Mais on a un rapport parce qu'on a des parents, on a des grands-parents qui ont vu ça. Il y a peut-être des relations qui sont des victimes qui sont mortes dans le génocide. Donc il n'y a pas grand-chose personnellement, mais ça nous affecte indirectement. Parce qu'on a nos grands-parents et nos parents qui ont vu ça.
Comment est-ce que vous vivez actuellement au Rwanda? Comment voyez-vous l'avenir?
L'avenir est très rassuré. On voit que notre pays avance peu à peu. Il y a des jeunes qui contribuent à notre développement. Le Rwanda, il développe très bien maintenant. Alors, personnellement, on le vit très bien. On a appris du passé. C'était vraiment mal. Et on essaye de reconstruire notre pays.
Est-ce que vous avez des relations ethniques avec d'autres Rwandais? Parce qu'avant le génocide, il y avait beaucoup d'importance à ce que les gens disent Hutu ou bien Tutsi, ce qui a fait beaucoup de mal à ce pays. Aujourd'hui, en tant que jeune, quelle est la relation que vous avez avec les autres Rwandais?
Notre relation est très bien. On le vit très bien. Oui, il y a des gens qui sont toujours entre... Comme les grands-parents, on a des grands-tantes qui disent non, tu ne dois pas te marier avec un Hutu parce qu'ils nous offrent ça et ça. Mais ça se diminue les années et les années. Les gens comprennent qu'on est tous des Rwandais. Il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Tutsi. Donc oui, on le vit bien maintenant, ça s'améliore.
Est-ce que demain, si vous êtes Tutsi, vous pouvez vous marier avec un Hutu ou inversement?
Oui, on le peut, oui. C'était vraiment pas très bien avant parce que les parents s'opposaient. Oh, c'est le Hutu, tu peux pas te marier avec lui. Mais maintenant, il sait, on est tous des Rwandais. On essaie de leur comprendre que ce n'est pas basé sur les Hutus, les Tutsis, on est tous des Rwandais maintenant.
Vous êtes l'avenir du Rwanda, vous êtes la jeunesse du Rwanda. Est-ce que vous pensez que ce pays va vraiment s'en sortir et que le génocide soit un lointain souvenir, loin derrière vous?
Ça fait 25 ans maintenant. Donc il va se reconstruire, ça va s'oublier. C'est oublié maintenant, même s'il y a peu de gens qui n'ont pas oublié ça, mais c'est vraiment oublié et on avance très bien.
C'était Sabrina Nishimwe, jeune Rwandaise qui s'exprimait sur le génocide. La jeunesse africaine fait face au phénomène de la migration. La question était au cœur du forum international organisé par la Fondation Mo Ibrahim qui s'est déroulé début avril à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La rencontre visait notamment à proposer des pistes en vue de faire face aux attentes des jeunes en matière d'emploi. Revenons sur cet événement avec notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Les migrations africaines, une question qui suscite beaucoup de réactions, aussi bien sur le continent qu'ailleurs dans le monde. Des réactions souvent non fondées et qui reposent sur une méconnaissance du phénomène migratoire, selon Abdoulaye Batili, ancien ministre sénégalais et ex-représentant de l'ONU pour l'Afrique centrale.
Autour de la migration, il y a beaucoup d'émotions et de préjugés, surtout d'ordre racial et même raciste. Les Européens émigrent entre eux, les autres continents ont été peuplés par des migrants venus d'Europe, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord, et en Afrique également. Il y a beaucoup d'Européens qui sont venus s'installer. Les migrations font partie de la dynamique de l'histoire mondiale.
Abdourahmane Cissé, ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie.
Si vous prenez la population totale de migrants, seulement 14% des migrants viennent d'Afrique. Alors que lorsque vous prenez l'Asie, ils sont aux alentours de 40%. Donc déjà, on se rend compte que les chiffres ne sont pas forcément ce que les gens présentent. En plus de cela, 70% des migrants africains restent en Afrique. Ils ne vont pas forcément à l'étranger, ils ne vont pas forcément en Europe, aux États-Unis et autres. Ils restent en Afrique. Et notre pays se classe en deuxième position après l'Afrique du Sud.
Pour le ministre Abdourahmane Cissé, les opportunités en termes d'emploi sont là, aux jeunes de savoir les saisir.
L'Afrique regorge d'opportunités. C'est le désespoir souvent qui envoie des gens à traverser l'Atlantique, la Méditerranée. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à rêver, il faut avoir de l'audace, il faut continuer à travailler, il faut persévérer.
Abdoulaye Batili souhaite que les efforts soient davantage axés sur l'industrialisation.
Notre perspective, c'est qu'il faut améliorer la gouvernance économique, améliorer la gouvernance politique pour saisir toutes les opportunités pour les Africains de rester sur le continent, de créer des entreprises par la transformation de nos matières premières, par un processus d'industrialisation qui donnera du travail aux jeunes.
L'un des temps forts de ce forum a été l'hommage rendu à Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, mort en août 2018, un grand et digne fils de l'Afrique, selon Pedro Pires, ancien président du Cap-Vert.
C'est un grand homme, quelqu'un qui réfléchissait beaucoup sur l'Afrique, sur le futur de l'Afrique. C'était un Africain préoccupé avec le futur de l'Afrique.
On prit part aux échanges d'Abidjan, l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote, le philanthrope américain Alex Soros, la secrétaire adjointe de l'ONU Amina Mohamed et plusieurs anciens chefs d'État, dont Ellen Johnson, Sirleaf du Liberia, Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Et oui, et si la jeunesse pouvait?
L'accès à la terre est un droit économique incluant notamment la possession de titres fonciers. Sur le continent africain, les femmes sont plus pénalisées que les hommes dans l'accès et le contrôle de la terre à cause de pratiques discriminatoires encore en vigueur dans certaines régions. Le droit coutumier favorise en effet encore les hommes dans de nombreuses communautés, sachant qu'il existe un lien très fort entre les droits à l'héritage qui privilégie les fils et l'accès à la terre, détenu majoritairement par les hommes.
Entre parenthèses.
Six organisation de la société civile camerounaise travaillant dans le domaine des questions foncières ont reçu des subventions de l'Union européenne. Ces ONG œuvrent pour l'accès à la terre des couches vulnérables, personnes défavorisées et autochtones de différentes régions, à commencer par les femmes qui sont souvent désavantagées sur ces questions. Voici un reportage de Emmanuel Juntap.
Madame Ousmanou Dokonodi Laouba milite depuis 22 ans pour l'amélioration du contrôle des terres et ressources naturelles par les femmes de la région de l'Adamawa. Dans cette partie du Cameroun, l'islam est la religion dominante. La présidente de l'association Femmes et Développement de Bayanga dit se battre depuis lors contre les pesanteurs religieuses et culturelles sur la question foncière. Ousmanou Dokonodi Laouba.
Nous voulons que tout le monde prenne conscience et que si une femme se sent capable d'accéder à la terre, qu'elle ait le cutus, par exemple, le leader religieux, de faciliter cet accès à la terre à la femme.
L'association de Ousmanou Dokonodi a reçu une subvention de 10 millions de francs CFA. Sa promotrice, une sexagénaire, s'est fixée l'objectif d'associer à son combat 200 personnes de la région de l'Adamawa en 6 mois. Norbert Bouba est un autre bénéficiaire. Il compte 7 années d'expérience dans la protection des droits communautaires des victimes des activités minières dans l'arrondissement de Chigil, dans le nord du Cameroun. Norbert Bouba, responsable de l'association CELPRO, basée à Chigil.
À Chigil, lorsque Simenka a obtenu le permis de recherche en 2012, vous avez des bornes placées partout dans les champs, même dans nos maisons et autres.
Est-ce que Simenka a une déclaration d'utilité publique? Sa superficie commence où? S'achève où? Quelles sont les marges qui sont réservées pour les communautés?
Simenkam, une société de production de ciment, est implantée au Cameroun depuis 1963. À cause de l'engagement de Norbert Bouba à protéger les droits fonciers des riverains, menaces et plaintes auprès des autorités administratives sont devenues son lot quotidien, confie-t-il à VOA Afrique. La question foncière au Cameroun connaît aussi l'engagement des jeunes. À Mangju, à 344 km de Yaoundé, Francis Kamban dirige la fondation Confucius. La gestion des conflits fonciers agro-pastoraux entre Camerounais et réfugiés centrafricains est au centre de ces interventions.
Vous savez qu'il y a un phénomène de corruption. La plupart des réfugiés qui ont accès à la terre sont des bergers qui ont beaucoup d'argent. Et vous comprenez qu'aller voir une autorité administrative et faire taire l'affaire devient très facile pour eux. Du coup, les communautés hautes restent sans voix.
Dans le cadre d'un projet dénommé Landcam, financé par l'Union européenne, le Cameroun ambitionne dans les 5 prochaines années de sécuriser les droits liés aux terres et aux ressources et améliorer la gestion des zones forestières. Le Centre pour l'environnement et le développement CED est parmi les 3 organisations du consortium Landcam. Serge Guifo, secrétaire général du CED.
Le but, c'est de fédérer tous les acteurs qui travaillent sur le foncier dans notre pays pour ensemble améliorer le diagnostic que nous posons sur la manière dont la terre est gérée et contribuer de manière efficace à la réforme.
Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voaafrique.com/LMF pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous, on reste en contact, à très bientôt.
Arrête. We'll be right back.